Cette émission a 3 ans. À l'époque, les identités non-binaires débarquaient avec fracas sur Internet et également dans les espaces trans. Une situation assez douloureuse, où des personnes non-binaires arrivaient avec leurs gros sabots en faisant la morale à des personnes trans qui se sont battues pour que ces espaces existent. Il était reproché aux vieux et vieilles trans leur manque de subversion, leur binarité. Tout ceci sans trop nous peser de questions, puisque si c'était le cas, on aurait pu parler de toutes ces années à lutter contre la binarité. Alors bien sûr, ça nous a touchés, ça nous blesse et nous met en colère. Le ton de cette émission, faite par 3 personnes trans, c'est cette colère qui s'exprime. On a manqué de subtilité. En particulier, on tenait à s'excuser pour les blagues malvenues sur des identités non-binaires. On les a enlevées. On constate également que si on continue de vouloir critiquer les objectifs de nos luttes politiques, il y a des manières de le faire et il y a des moments pour le faire. Il était certainement trop tôt à ce moment et il n'y avait pas la confiance établie pour le rendre possible. Et le ton qu'on a utilisé ne permettait pas non plus de prendre la critique. On continuera d'être critique du libéralisme inhérent aux luttes identitaires, des queers, aux transpédéguines, aux non-binaires. La centralité de l'individu dans la manière de nous penser nous éloigne parfois des luttes plus collectives. Et pour autant, nous participons à ces mêmes luttes identitaires parce qu'elles nous donnent de la force. C'est cette tension qui nous a toujours nourris à On n'est pas des galons. 3 ans ont passé et nous pouvons constater que les listes d'identité disponibles sur Internet ne sont pas les plus utilisées. Des personnes se disent non-binaires comme une identité parapluie, d'autres comme une posture politique. Dans cette posture, nous nous rejoignons. De la même manière que nous sommes féministes, anticapitalistes, antiracistes, nous luttons également contre la binarité. Des espaces ont changé de forme de mixité choisie pour y inclure les non-binarités. Des personnes non-binaires ont reconnu être cis et non-binaires et ne pas avoir grand-chose à faire dans les espaces trans. D'autres sont des personnes trans non-binaires et y ont toujours eu leur place. De cette émission, nous gardons la problématique d'être renvoyé, de manière tout à fait binaire d'ailleurs, au fait d'être trans-binaire dès lors que nous avons choisi de prendre des hormones ou de nous faire opérer. Nous gagnerons en subtilité à abandonner cette pensée caricaturale. Par ailleurs, nous n'avons pas à porter la subversion du monde parce qu'on transitionne. Certaines personnes trans sont des hommes ou des femmes. Il serait malheureux de juger leurs envies et leur parcours, quand bien même ce ne sont pas nos choix. Nous continuons aussi de penser que l'utilisation des diagnostics psychiatriques est dangereuse et qu'elle peut à tout moment nous revenir dans la gueule. Les luttes anti-psy ont toujours combattu et continuent de combattre les diagnostics des psys. Pour finir, nous nous excusons également d'utiliser le terme dépolitisation. Les choix faits et pensés par des personnes non-binaires sont politiques. Nous sommes simplement en désaccord à plusieurs endroits. Féministement, l'équipe de On n'est pas des cadeaux.
Une sorte de contradiction interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé. Ou enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
C'est pas en demandant poliment, vous ne voudriez pas nous enlever de nos nosographies psychiatriques qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des poings sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
Bonjour.
Alors, bienvenue aujourd'hui dans On n'est pas des cadeaux. Merci de me rendre mes feuilles pour pouvoir faire l'émission.
Et c'est le mix dans le studio. Alors voilà, on va parler des non-binarités aujourd'hui, et parce qu'il en existe plusieurs. Et on va d'abord commencer par raconter un peu pourquoi on a eu envie de faire cette émission. Et donc, on n'est pas des cadeaux, plutôt on est dans une critique de la binarité, c'est-à-dire de penser qu'il y a deux catégories sexuelles et de genre dans ce monde qui seraient les hommes et les femmes, qui sont des catégories figées, et nous on pense plutôt les choses comme des continuums, et qu'on trouve ces catégories très arbitraires et qu'elles ne nous correspondent pas. Et du coup on avait envie de faire cette émission pour ça, et aussi parce que dernièrement il y a un peu d'autres personnes qui sont, enfin depuis quelques années, qui se disent non-binaires, et la manière dont ils ont de définir la critique de la binarité, en tout cas de se dire non-binaire, etc., on n'est pas forcément d'accord avec la façon dont ils ont de dire les choses, ou en tout cas politiquement ça nous pose plein de questions, et on a envie d'en parler dans cette émission.
On avait aussi envie de souligner que du coup face à ce développement de ce nouveau discours, ces nouvelles façons de se raconter ou de se décrire à travers la non-binarité, ça effaçait aussi d'autres formes de non-binarité entre guillemets que nous on connaissait depuis un peu plus longtemps et qui étaient aussi inscrites dans l'histoire de nos luttes, et que du coup on est aussi dans une continuité d'histoire de lutte transpédéguine et pas dans l'invention de dénominations un peu sexy qui peuvent recouvrir une multiplicité d'affects individuels.
On a envie de critiquer un peu le fait que le libéralisme il se retrouve à plein d'endroits dans nos vies et dans nos luttes, et que de se définir de manière tout à fait individuelle, mais on y reviendra tout à l'heure, ça fait un effet un peu à l'inverse de l'empowerment. En tout cas, nous, on a envie de voir les luttes dans des perspectives de lutte de manière collective et pas juste en tant qu'individu, et c'est dans ce sens-là qu'on a envie aussi de penser la non-binarité, c'est-à-dire dans une perspective qui est transpédéguine, qui est féministe, qui est collective.
C'est aussi, je trouve, un besoin là de parler de lutte collective et de montrer comme quoi le libéralisme il est partout. Et il s'infiltre dans nos façons de nous décrire et dans nos communautés et dans notre manière de se penser tout seul et pas en groupe.
Et puis ça a des conséquences aussi, notamment dans les luttes trans, parce que les personnes non binaires, elles vont se dire trans pour beaucoup d'entre elles. Et sauf qu'à des moments, ça questionne sur la réalité sociale que ces personnes traversent par rapport à des personnes trans qui ont des parcours, des façons d'être dans la société ou face à la société qui fait qu'on est stigmatisé, ou en tout cas qu'on a des trucs d'oppression, des médecins, de la société, de machin et tout ça. Et
la critique qu'on voulait proposer aussi, ça impliquait nous poser, on n'est pas des cadeaux, aussi dans des perspectives de critique commune, parce que descriptions en termes de non-binarité, elles sont pas nouvelles, c'est pas une invention récente. On a dit qu'elles avaient une histoire et qu'elles étaient inscrites dans l'histoire de nos luttes. Nous aussi on partage évidemment l'analyse que le monde il s'organise sur une binarité qui est complètement écrasante et qui écrase la diversité qu'on peut avoir envie de mettre en avant dans les manières dont on se vit ou dont on peut se décrire en termes notamment de genre. Et elle reflète aussi l'envie qu'on a de vivre autrement en dehors du système hétéropatriarcal qui écrase nos expressions de genre et veut absolument les réduire à deux cases extrêmement limitantes.
Bah oui, c'est sûr qu'on a, ça donne envie en tout cas de créer d'autres possibilités que les catégories hommes-femmes. Et on a envie de... En tout cas, on a toujours eu envie de dépasser ces catégories et de pouvoir s'affirmer autrement et en dehors du prisme hétérosexiste.
Mais après, j'ai l'impression quand on peut utiliser en tant que transpédéguine cette notion de non-binaire, qu'on sent non-binaire, c'est par rapport à quelque chose. Sauf que c'est ça le trouble abyssal dans lequel ça me met de lire plein de définitions sur les sites de non-binaire actuellement, c'est que c'est en rapport avec rien. Donc c'est une sorte d'étrangeté là-dedans, le fait de non-binaire, mais vis-à-vis de... Moi j'ai l'impression que c'est pas rien, mais c'est peu de choses. Et du coup, c'est là où je trouve intéressant que on se dit transpédéguine et féministe. En fait, c'est transpédéguine, c'est revenir sur des insultes, et se réapproprier ses identités pour s'en donner de la force. Et du coup, on crée nos imaginaires, mais on part d'une violence au départ structurelle.
Ouais, puis enfin, ce que tu dis, je trouve que ça renvoie aussi au fait que ça renvoie à rien et ça renvoie à une intériorité qui est hyper du coup sacralisée. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler autour des questions de libéralisme, mais qui rend foncièrement inaccessible en termes de compréhension, qui nous rend les uns ou les unes les autres inaccessibles. Et du coup, ça désagrège complètement les perspectives collectives, là où en fait, nos revendications transpédéguines, elles font du collectif à partir de cette violence sociale.
On s'écoute une petite chanson.
Et
pour
ouais.
Vous laisser un peu respirer. Vous la présentez ou...
Eh bien oui, il s'agit de la chanson Post-Post de Grâce et Volupté Van Van, avec, il me semble qu'ils sont trois, il y a aussi June dedans. Et c'est une chanson très très cynique sur le rapport aux oppressions et le fait qu'on puisse penser les oppressions comme quelque chose d'un peu sexy, tout ça. Et en tout cas, voilà, on s'est dit que ça tombait bien.
Ça faisait un petit lien. Bonne écoute.
Handicapé, je veux te baiser, ça fera bien sur mon CV. Laisse-moi monter sur ta machine, je ferai des photos pour m'enfoncer. Mon orgasme en suspension à la vision de ton moignon.
La pauvreté me fait mouiller, précarité au fond de marais. Je préfère les fils des RMistes, c'est encore mieux si t'es métisse. J'ai déconstruit ma blanchitude au contact des lesbiennes kurdes.
Minorisés en faculté, dans les amphis des racisés. Y'en a aussi qui sont pédés et parfois même hormonés.
Addition des oppressions fait augmenter l'excitation.
Ma famille est prolétaire, avec les pauvres je sais y faire. J'ai souffert plus que toi, dans les débats la ramène pas.
Enfant sordide, minou humide, tes cicatrices me rendent liquide.
Pour les vacances je vais squatter un building tout délabré. Tu pourras me toucher dans la zone de gratuité.
Si t'es crust, c'est le must, vieux pantalon, transpiration.
T'es toxico ou alcoolo, moi je kiffe trop les anormaux. Quand tu te piques à l'héroïne, ça fait couler toute ma cyprine.
Érotisation des oppressions, résultat de ma réflexion.
Moignon mignon dans mon fion, Andy joli sex party.
Galère, misère, c'est super,
so queer, so queer, so funny.
Moi j'ai un corps trop anormé, j'ai une boule de gras sous le pied droit. Ça fait bien un copain gros, mais pour mes photos c'est un peu trop.
Te faire grossir c'est mon plaisir, je reste accrochée à tes bourrelets.
Si t'es transpu, t'es sans papier,
j'ai bien envie de t'embrasser.
Rien que l'idée de te faire payer,
ça suffit à m'exciter.
Sex worker fait mon bonheur, dominatrice, je vois ta pisse.
so queer, so queer, so funny.
Et voilà pour la chanson Post-Post, avec le refrain so queer, so queer, so funny. Et on repart dans, du coup, cette découverte un peu de ce qui est revendiqué par les personnes non-binaires actuellement. Et puis, on avait envie de, justement, un peu plus accentuer sur le libéralisme dans cette manière d'être au monde, là, d'être un individu au centre des systèmes, c'est-à-dire qu'on va se définir avec son genre, avec sa petite étiquette, etc., sans prendre du tout en compte les systèmes de classe et ce qui existe autour, et on va juste se définir par rapport à ce que nous, on a envie de dire de nous, et complètement dans un truc un peu auto-centré, et avec un truc très fort de politique du ressenti, où on va dire, je me sens... voilà, je me sens driagenre, je me sens... Enfin, peu importe, quoi.
On peut en citer quelques-uns, parce que c'est vrai ce qu'on dit, c'est des définitions qu'on a trouvées sur des sites internet.
Ouais.
C'est pas... on invente ça et il y a vraiment des listes et des listes entières de définitions de sans-genre, galaxie-genre, cosmique-genre, genre spirale, crita-genre, d'homme-genre, genre à masse.
Il y en a encore et encore.
Il y en a des pages et des pages.
Pages et des pages. Et donc, ça fait vraiment l'impression que, on peut se définir soi-même, tout seul, dans son coin, sans relation quelconque avec la société autour, les rapports sociaux, tout ça. On a l'impression que ça n'existe pas, qu'on peut complètement s'en abstraire. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intriguant, d'une part, et est-ce que vraiment, je sais pas comment dire, ça pose quand même la question de mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ce bordel, en fait ? Quel est l'intérêt, vraiment, de se définir par rapport à soi-même ?
Mais en fait, ce que tu dis, ça renvoie aussi, je trouve, au fait qu'on s'abstrait donc des rapports sociaux en se centrant sur un récit auto-centré autour de l'individu, sur un ressenti qui, au final, est toujours inaccessible, mis à part pour celui qui le met en mots, quoi. Et du coup, c'est vraiment pas une... C'est sortir d'une perspective politique aussi, parce qu'il n'y a pas de politique du ressenti posée comme une vérité absolue, et du coup, c'est aussi une manière de poser certains éléments en dehors de toute forme de discussion ou de toute forme de réponse dans un rapport social qui n'existe plus, du coup, puisqu'on est exclusivement dans un ressenti qui construit de la vérité et qui est inattaquable et aussi en partie impartageable, quoi.
Et cette forme-là de vérité, comme tu dis, et de libéralisme, j'ai l'impression qu'elle vient complètement dépolitiser nos politiques identitaires en tant que féministe. Et c'est à un moment donné, c'est pourquoi on met des mots sur des choses et qu'on crée des catégories, c'est qu'elles sont marginalisées au sein de la société. Et ce truc-là, là, de tout rendre à la vérité puis à l'individu, finalement, ça sabote un peu notre travail. Moi, je trouve, c'est pour ça qu'on fait aussi cette émission, c'est que ça nous gonfle un peu. Comment ça nous met en porte-à-faux, notamment, il y a des exemples de potes trans qui tiennent des permanences trans et qui se font remettre à leur place par des personnes non binaires, et c'est pas simple, en fait. Ça vient vraiment dépolitiser quelque chose de l'identité.
Oui, parce que aussi, bien sûr qu'il y a certaines choses qui ont été créées en termes d'étiquette, mais il y a aussi toute une part de réappropriation dans les identités qu'on peut avoir, et PD, Gwyn, folle, trans, etc. C'est des choses qui ont d'abord été créées par la société, par les médecins, en tout cas par des personnes plutôt hostiles à nous. Et du coup, on se les est réappropriées dans un truc politique et d'en faire une force, mais elles viennent pas de rien. Ça a une histoire de lutte, une histoire de résistance, une histoire de stigmatisation, une histoire d'oppression. C'est pas juste, je vais inventer quelque chose parce que ça m'enchante. Enfin, je veux dire, peu importe si les personnes, elles ont envie de s'inventer des choses, moi, il n'y a pas de problème, mais qu'on vienne m'expliquer après, enfin, je veux dire, comment on lutte ensemble, quoi. Enfin, comment, à un moment donné, on est dans des trucs de lutte par rapport à l'hétéropatriarcat, par rapport à un système oppressif, etc. Enfin, moi, c'est plus ouais, sur la réalité sociale que j'ai envie qu'on se confronte. On peut se dire... enfin, je veux dire, y a pas de... enfin, ce qu'on ressent à l'intérieur... il n'y a pas de problème, je veux dire, on peut ressentir plein de choses. Après, il y a, bah, dans la société, en fait, qu'est-ce qu'on te met dans la gueule? Et ça, à un moment donné, bah, tu peux être licorne, bah, après, peut-être dans la gueule, dans la rue, juste, bah, t'es vu comme, je sais pas, un gars, cis, hétéro, bon, bah, tu vis pas la même chose, en fait. On vit pas les mêmes choses.
Mais c'est aussi sur, je sais pas, là, pour prendre l'exemple de la boulangère... ben, en tant que personne trans, quand on transitionne, il y a, je veux dire, la boulangère ou le commerçant qui nous connaît sans nous connaître, en nous connaissant un peu, il y a des basculements qui se font, il y a des genres qui des changements de genre qui s'opèrent là. Et mais sauf que si physiquement, socialement, je ressemble à une femme et que je comprends pas du tout pourquoi la boulangère ne me parle pas au masculin, bah, il y a un côté quand même bizarre là-dedans, dans le sens où c'est comme, en fait, si on vivait dans un jeu vidéo et que le matin, on dit bah, comme les enfants, ce qui est chouette, hein, d'une manière, ah, on n'aurait qu'à dire qu'aujourd'hui, je suis ça. Sauf que l'ensemble de la société est censé le comprendre, ce qui est une belle utopie d'une manière, mais sauf que confronté à la réalité, ben, ça marche pas, parce que la boulangère, c'est dur de comprendre d'une manière que non, et que de lui dire, enfin, je sais pas comment dire, je sais pas si on peut le définir comme une oppression, ça je pense pas, si après ça peut nous faire chier, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous troubler, ça peut plein de choses, mais de elle la renvoyer bouler en tant que telle, c'est compliqué. Et
puis ça implique aussi que du coup, en recentrant tout sur cet individu qui décrit son ressenti, on organise tout le monde social et toutes les interactions possibles autour de ce ressenti-là, en fait. Et du coup, c'est l'individu comme une espèce d'hypercentre au centre de tout... toutes les interactions possibles et imaginables, ce qui met en avant aussi bah, tout ce qui concorde pas ou tout ce qui met en faillite ce récit du ressenti comme vérité, quoi. Parce que là où ça dysfonctionne, ben du coup ça devient de l'oppression ou de la violence ou et c'est voilà, c'est plutôt autour d'un individu ou d'un ressenti individuel que d'un collectif qui serait là une perspective déjà plus fédératrice au moins.
Vous voulez faire quelques petites citations encore?
Non, mais aussi je voulais dire que c'était quand même un peu fou cette histoire de tout classifier, de tout catégoriser. En fait, il y a un côté vraiment, je trouve, dangereux, vraiment, je pèse mes mots, sur le fait de s'auto-catégoriser, s'auto-classifier, dans avoir l'impression finalement de refaire un travail qui a été fait au 19e siècle par des médecins et des psychiatres, qui n'a pas du tout été en notre faveur. On ne peut pas l'oublier, quoi. Je veux dire, ça a donné des choses de nous faire rentrer dans la psychiatrie quand on était introverti, machin, inverti, pardon. Bon, introverti aussi, j'imagine, mais inverti.
Tu peux être inverti et pas introverti.
Je veux dire qu'il y a eu des espèces d'expériences pour essayer de remasculiniser des PD, qu'il y a eu, enfin, il y a eu plein de choses de fait horribles.
Ça se fait encore, ouais. Il ne faut pas l'oublier.
Et du coup, de là, c'est un peu comme prendre le bâton pour se faire abattre. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, de se catégoriser comme ça, d'inventer plein de catégories, de tout vouloir classifier chaque petite orientation sexuelle. Parce que là, on parle du genre, mais c'est également le cas, les classifications pour les orientations sexuelles, où à un moment donné, il va y avoir vraiment cette définition des orientations sexuelles hyper précise par rapport à avec qui tu baises. Et bon, en fait, quel est l'intérêt de ça? Enfin, justement, on parle là, à un moment donné, les identités qui ont été construites sur des années, là, historiquement, c'est aussi des identités politiques, en fait. C'est pas que... enfin, je veux dire, PD, c'est pas que parce que tu baises avec un homme. Gwyn, c'est pas que parce que tu baises avec des Gwyn. Enfin, je veux dire, il y a aussi toute la dimension de lutte politique derrière, de réappropriation de l'insulte, de plein de choses. Et du coup, c'est vide.
Voilà. Bah, c'est étriqué. Je sais pas si c'est vide, mais c'est, moi, ça me rend triste, ce genre d'imaginaire de devoir faire 32 définitions différentes pour définir ta sexualité, même sans son, sans ton genre. À un moment donné, je sais pas. En fait, tu baises avec des gens et il n'y a pas besoin de tout spécifier exactement pour être la seule personne qui est d'une certaine manière avec, avec ton, ta partenaire, je ne sais pas comment dire.
Puis finalement, ça fait aussi un truc que tout se vaut. Ça, c'est très libéral aussi. Mmh. Tout se vaut, toutes les identités s'équivalent. Et ça, c'est vraiment un truc d'oublier vraiment ces systèmes de classe. Parce que si on prend tous les genres ou quoi, ou en tout cas à un moment donné, ben non, je veux dire, dans la société, en fait, on est à des endroits de la société où non, tout ne se vaut pas, en fait. Où il y a des systèmes d'oppression et qu'il ne faut pas les oublier. Et du coup, là, ça fait vraiment un truc de... On fait un catalogue d'identités et puis elles sont équivalentes. Voilà.
Après, pour reprendre ce que tu disais, ouais, moi, c'est un truc qui m'interroge, assez... profondément toujours, c'est en quoi ouais, ce diagnostic, c'est censé être une forme de... un truc qui nous épanouirait ou un truc qu'on pourrait ranger avec les outils d'empuissancement qu'on a parce que... Enfin, on parle de l'histoire de nos termes transpédéguines mais enfin, ces termes-là enfin, qui ont l'air de s'inventer au jour le jour, ils en ont aussi en fait, c'est juste que c'est faire l'histoire de la matrice psychiatrique de ces termes-là ou de leur mode de composition plutôt que leur sédimentation politique dans l'histoire de nos luttes. C'est comme tu disais, reprendre le bâton pour se le coller dans la gueule et pas dépasser cette idée de catégorie parce que oui, évidemment, qu'on se retrouvera sur l'arbitrarité des catégories hommes-femmes, sur l'arbitrarité des constructions de genre, très bien. En attendant, si la seule perspective, c'est d'en construire d'autres, qui sont en effet aussi étriquées, et qui d'ailleurs ne sont pas franchement critiques de la notion même de catégorie, voire pas du tout critiques des catégories de sexe, qui sont quand même toujours là, quelque part, comme des réalités biologiques, et sur lesquelles on pourrait de toute façon construire un truc qui, comme il relève du ressenti, sera tout aussi vrai. C'est naze.
On peut faire peut-être une parenthèse sur l'histoire des transidentités, un petit peu, ou je sais pas quoi, en tout cas de ce qu'on en connaît, ce qu'on en a vécu.
En tout cas, sur les catégories psychiatriques, c'est-à-dire que je trouve justement les termes de binaire et de non-binaire, ils viennent pas de nulle part. Il y a plusieurs années, en fait, il y avait des catégories qui existaient, enfin qui existent toujours, je pense, au niveau psychiatrique par rapport aux personnes trans, qui étaient les catégories de trans primaire et trans secondaire. Alors, il faut entendre trans primaire comme les bonnes ou bons trans, c'est-à-dire les personnes qui vont transitionner vraiment de homme vers femme ou de femme vers homme avec le fait d'arriver dans leur genre, d'arriver d'être hétérosexuel, ça c'est important dans les trans primaires, et d'avoir
dans le BDV
BDV
bite dans vagin
ou inversement, oui c'est ça.
Non, désolé.
Non, vagin dans bite, ça marche pas.
Pas inversement,
je me suis perdu. Mais c'est très hétérosexuel. Ouais.
Voilà. Et donc, de coller à tout ce qu'on peut avoir comme stéréotype de la femme et de l'homme, enfin, en tout cas, que les psychiatres peuvent avoir, parce que, bon, en fait, ils se les accolent pas forcément à eux, mais ils les projettent beaucoup sur d'autres personnes. Donc, il y avait ces deux catégories, transprimaire, transsecondaire. Et ça a fait un peu dissension, on va dire, au sein des luttes trans, des communautés trans, sur le fait justement de se critiquer sur ces trucs-là, d'être transprimaire ou d'être transsecondaire, parce qu'il y avait ces catégories psychiatriques et la pression psy à correspondre plus à la catégorie transprimaire que transsecondaire.
Mais j'ai l'impression aussi, comme dans beaucoup de luttes, il y a déjà eu le fait de se retrouver et après le truc de critiquer et de lutter. Dans ce truc de... au départ, il y a tellement besoin de reconnaissance que tu es d'une manière content que des psys te reconnaissent et après, bah, tu as toute cette critique-là qui est faite et que c'est pas dans le même temps. Mmh. Et nous, on a la chance d'être pris dans cette critique-là de la psychiatrie. Et c'est une force aussi.
Ouais. Et donc, ces catégories, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles deviennent à un moment donné plutôt... j'ai pas d'année et tout ça, c'est juste qu'à un moment donné, on parlait de primaire, secondaire, et puis il y a eu un glissement sur binaire, non-binaire, c'est-à-dire binaire des personnes trans qui iraient vers... la catégorie femme ou la catégorie homme, et non binaire des personnes trans qui voudraient rester dans le continuum et pas se définir comme homme ou comme femme. Et ces catégories qui ont été déjà des catégories médicales à la base ou psychiatriques, et puis qui sont devenues des catégories que pourquoi pas, elles peuvent expliquer des cheminements, mais elles sont aussi pleines de beaucoup de jugements d'un côté et de l'autre. Parce que le fait d'être trans non binaire, ça voulait dire pas être des vrais trans pour les uns et les unes. Et le fait d'être des trans binaires, c'était pas assez subversif pour les autres. Du coup, c'était déjà, en tout cas, c'est important de critiquer la binarité. Enfin, moi, je trouve ça important de critiquer la binarité, mais je trouve que on a toujours eu tendance, ou beaucoup tendance, mais trans ou pas trans d'ailleurs, de critiquer le fait que des personnes trans veuillent aller vers d'être homme ou d'être femme, comme si les trans devaient porter une certaine subversivité. Et je trouve que actuellement, les personnes non binaires reprochent les mêmes choses aux personnes trans qui ont choisi de faire un parcours de transition, c'est-à-dire de changer de pronom, d'avoir un parcours médical ou psy ou des hormones ou des opérations, peu importe. Mais du coup, il y a comme un peu un espèce de truc renvoyé à un truc de vous n'êtes pas assez subversif, en fait. Du coup, vous êtes binaire. Enfin, il y a eu un glissement aussi sur qui était binaire, qui était non binaire. Je pense maintenant toutes les personnes trans qui sont, enfin, ou quasiment, pas toutes, mais en tout cas quasiment toutes les personnes trans qui sont dans des parcours de transition visibles, visuels, eh ben, sont décrétées binaires.
Oui, t'as bien résumé le glissement qui s'opère et qui nous laisse dans l'expectative, en tout cas, et qui va, en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui va dans plutôt de la dépolitisation, parce que oui, en fait, il y a différentes manières d'être trans, en tout cas, si on reste sur la question des communautés trans, et que moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant qu'on puisse échanger, je ne sais pas comment dire, s'accepter et se comprendre même dans nos manières différentes de se percevoir, et qu'on ne va pas lutter aux mêmes endroits en tant que personne trans plus binaire ou plus non binaire, mais on va lutter en tout cas, et on est dans des trucs de se confronter à une société qui est hostile dans tous les cas. Et voilà. Et là, ça vient déplacer vraiment le truc. C'est que y a des personnes qui veulent lutter avec nous, qui font d'autres postulats et qui imaginent que le monde, ils partent du postulat que le monde est déjà non binaire. Et du coup, c'est comme ça lisse et ça écrase un peu ce qu'on essaye de dire et les difficultés sociales qu'on rencontre. Donc il y a une sorte de non-communication pour l'instant, et peut-être ça va bouger.
Peut-être.
Et puis le développement de à partir de ces questions de psychiatrisation et de diagnostic, enfin, ces trucs de lexique et de langage, ça donne au final un croisement pour catégoriser des orientations sexuelles avec les neuroatypies, en fait. Ce qui est aussi, au final, retrouver le canal de la psychiatrie et de pathologie des sexualités.
On
est en plein dedans, et c'est des classifications d'identité sexuelle qui sont dans la neurodivergence et qui du coup déplacent le praticien vers celui qui produit le récit, quoi. Donc au final, c'est s'auto-diagnostiquer, quoi.
Oui, il y a par exemple neurogenre qui a été défini. Du coup, neurogenre, ça veut dire qu'en gros, c'est un terme qui correspond. C'est un genre qui correspond aux personnes neuroatypiques. Voilà, neuroatypique, ça veut dire qui ont été définis, qui ont un fonctionnement mental qui n'est pas dans la norme dominante. Alors, c'est un peu large. mais ça c'est la définition. Et donc ça veut dire que en gros voilà, si, enfin c'est vraiment ce que tu disais là, ce lien entre avec la psychiatrie là, enfin que moi je trouve que c'est là où ça devient vraiment dangereux, c'est-à-dire que on va coller des diagnostics psy qui sont déjà contestables. Je veux dire, on n'est pas en train de dire que la folie n'existe pas, on est en train de dire que les diagnostics sont contestables, et on va venir les coller à des genres et à des orientations sexuelles. C'est ouais. Chaud.
Bah oui, et puis l'idée c'est aussi de se réinscrire ici dans la continuité des luttes anti-psy qui font partie des luttes transpédéguines. Donc on peut pas les effacer et genre faire comme si d'un coup c'était normal de s'auto-diagnostiquer et de faire comme si c'était un outil politique.
Et puis merde, c'est dégueulasse. Moi, tu vois, c'est ce truc de on est aussi dans des luttes anti-psy, et en tant que trans, j'ai pas envie de me faire psychiatriser, et du coup, de la part de personnes et de personnes trans, de valider un discours psychiatrique et de s'engouffrer dedans complètement en faisant tout ce mélange-là, moi ça me met vraiment en colère, quoi. Je suis là, mais en fait non, je suis une personne, j'existe, j'ai pas besoin d'un diagnostic psychiatrique pour exister, en fait je suis là. Et en fait, il y a vraiment, on n'est pas d'accord là-dessus, quoi. Je veux dire, nos identités TPG, elles ont pas besoin d'exister avec de la psychiatrie. Non, on n'a pas besoin de médecin. Non, on n'a pas besoin de médecin pour se faire valider. On se valide entre nous, avec les gens avec qui on compose dans la vie. Et même si à des moments c'est compliqué, mais non, en fait, je vais pas attendre un médecin. Et je l'ai jamais attendu et je l'attendrai pas, et donc je vais pas attendre d'autres personnes la même chose, qu'elles me définissent voilà. C'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Puis là, je trouve que la suite de ça, de cette utilisation de la psychiatrie, qui est aussi une façon de produire du discours, c'est aussi l'idée d'aller plus loin, ou de percer les secrets de l'esprit ou de la maladie mentale ou je sais pas quoi. Du coup, c'est de s'aventurer au plus profond de la subjectivité de quelqu'un. Du coup,
tu veux dire ton moi profond.
Le moi profond, c'est ça. Et du coup, on se retrouve avec des identités qui sont hyper essentialisées, parce que ça vient toujours au terme d'un parcours de questionnement plus ou moins long. Et du coup, trouver sa catégorie, c'est trouver son endroit. Ça y est, c'est trouver comment décrire son moi profond, c'est trouver sa boîte. Et du coup, c'est censé être un accomplissement.
C'est une quête,
voilà,
de trouver comme son genre, son orientation sexuelle.
Comme dans un jeu de rôle, finalement. Et des jeux vidéo.
Bah, ça pourrait y ressembler, ouais. À un jeu de rôle. parce qu'aussi, c'est beaucoup sur Internet, hein. Quand même. Enfin, je veux dire, aussi justement parce que ça permet de ne pas avoir la réalité sociale qui va avec. Je veux dire, d'être sur Internet, on peut quand même tout se dire.
Mais c'est vraiment ce que tu viens de dire là, c'est vraiment chiant, quoi, et chaud, quoi, ce truc du moi profond là. Je veux dire, on peut vivre en société sans avoir besoin de arriver à définir son moi profond, qui en plus évolue et est jamais figé. Bon, ils le disent aussi, ça, c'est heureusement, mais voilà. On aurait qu'à se faire une petite pause musicale, non?
Eh oui.
Et du coup, on va écouter Mylène Farmer, parce qu'on n'a jamais assez écouté Mylène Farmer. Du coup, ce sera sans contrefaçon aujourd'hui.
We'll be right back.
Voilà, c'était Mylène dans On n'est pas des cadeaux, 102.2 FM.
Et on va continuer toute cette petite discussion très intéressante. Et là, on va parler justement un peu de tout ce qu'on disait là sur en fait, la société, comment elle fonctionne avec des classes, avec des systèmes de classes, avec des systèmes d'oppression. Et du coup, de ne pas prendre ça en compte, c'est un peu se planter dans nous, ce qu'on pense en tout cas de comment on a envie de justement en fait lutter et faire de la lutte politique et des luttes collectives. Et moi, un des trucs que je voulais dire, c'est que j'ai déjà un peu dit, mais c'est justement tous ces termes là ils ont pas d'existence, enfin je veux dire, ils apparaissent comme ça, bouf, ils ont pas vraiment d'histoire, ils sont placés comme ça. Et puis surtout, ce qui est hyper fou, c'est qu'ils vont reprendre des termes qui, eux, ont une histoire. Et par exemple, c'est le cas de plasiosexuel. Alors, je lis la définition. Plasiosexuel, c'est une personne qui désire réaliser des actes sexuels sur les autres, mais ne désire pas en recevoir soi-même. Alors, c'est super bizarre, parce que plasiosexuel, ça nous fait penser, la définition, là, comme on pense un peu, tiens, stone, ça nous dit quelque chose, stone, les stone butch, par exemple, les butch qui vont être dans un truc, justement, de avoir envie de baiser les gens, mais pas forcément de se faire baiser. Et du coup, stone butch, ou stone même, c'est des définitions et des histoires qui existent. C'est quelque chose, je sais pas, on pense à Leslie Feinberg avec Stone Butch Blues, on pense à, en tout cas, des personnes qui ont pu parler de cette identité, de se croiser sur cette identité, d'en faire de la complicité, des luttes, etc. C'est toute une histoire de lutte de Gwyn.
C'est pas Leslie Feinberg qui a créé Stone, ça s'est fabriqué avec de l'histoire. C'est comme il faudrait créer une histoire à, t'as dit quoi, plasiosexuel.
Plasiosexuel, ouais.
Sauf que c'est tellement pas sexy de créer une histoire à un terme qui se nomme tout seul sur Internet. Du moins, c'est pas moins intéressant en tout cas.
Ouais, puis c'est quoi l'intérêt de créer une histoire, un truc nous vaudrait dans la virtualité de l'internet, et ça reviendrait du coup peut-être à foutre à la poubelle ce qui peut nous nourrir réellement, parce que voilà, je sais pas moi, l'histoire des folles et des tapettes en France, elle donne corps aussi à cette non-binarité entre guillemets, parce que les résumer à être cette binarité homme-femme, je pense que c'est un peu étriqué, on va dire. Et du coup, ce que tu disais sur le terme de Stonebush, ça se reconduit sur l'ensemble de nos identités qui ont... Enfin, elles sont riches, c'est des récits qui sont hyper riches en termes de subjectivation politique. Il y a plein de trucs pour nous nourrir là-dedans, et c'est des trucs qui ont des corps aussi. Et je trouve ça super important, plutôt que d'aller chercher à valider absolument son ressenti individuel sur Internet, que trouver... Enfin, je trouve ça à mon échelle, on va dire... plus une source d'empuissancement de trouver ces récits-là dans des corps collectifs, et surtout dans des corps qui sont collectifs, quoi, qui sont pas juste des individus isolés, quoi.
Et il y a aussi, je pourrais citer Néon, là, le magazine, un des magazines, je sais pas, c'est quoi la définition du magazine Néon ?
Je sais pas, c'est un truc à la mode, quoi.
C'est un truc à la mode, ouais. Un peu provoque...
Et du coup, un des dossiers qui a été fait sur les non-binaires, je cite une personne qui disait « Je voudrais être un être humain normal, sans autre signe extérieur de féminité. » Et
pas ça un pique. Peu misogyne, ça, par hasard
Ça pique.
Ça pique, hein. Ouais. Je te laisserai développer ce que tu viens de dire. En tout cas, moi, ce sur quoi je voulais ramener, c'était... c'est le truc du neutre qu'en tant que féministe matérialiste, on dénonce pas mal. C'est que ça n'existe pas, le neutre, même si tout le monde veut faire de l'objectivité et de la neutralité, ça n'existe pas. On est situé dans des contextes et à la rigueur, le seul neutre qui existe dans notre société, c'est l'homme blanc hétérosexuel, c'est-à-dire le dominant, le stéréotype du dominant, même si c'est encore plus complexe que tout ça. Mais voilà. Et du coup, dans nos réseaux aussi, il y a cette idée d'androgynie et qui rejoint un peu cette idée de neutre. Et du coup, comment tu, en tout cas pour des personnes assignées femmes à la naissance, comment tu gommes tes traits de féminité, ça amènerait à une neutralité. Et non, en fait, de gommer les signes de féminité, ça amène à de la masculinité, ça amène pas à de la neutralité. L'homme blanc hétérosexuel, c'est censé être le neutre, mais comme c'est critiquable pour nous, on va pas, ça va pas devenir enviable. Bref, voilà.
Puis dans cette tension là vers le neutre entre guillemets, enfin y accéder par la voie du ressenti hein, qui crée du toujours de la vérité inattaquable. Ça amène à des situations où tu peux te retrouver avec des discours qui sont hyper misogynes ou globalement hyper misogynes ou qui exercent d'autres formes de violence mais qui ne seront pas désignées comme telles parce que magiquement on s'abstrait des rapports sociaux parce qu'on est dans le neutre et parce qu'on est virtuellement aussi quelque part dominé ou sujet à oppression. Mais du coup, c'est, par exemple, cette citation elle est complètement aberrante, quoi. Un être humain normal sans signe de féminité, c'est...
Oui, c'est que du coup, les femmes ne sont pas des êtres humains. Voilà,
c'est la vieille idée.
On peut la définir comme ça aussi.
Et c'est un... Alors, je sais pas si... Oui, c'est une dérive, quoi, de ce discours-là. C'est aussi son développement, quoi, cette tension vers le neutre. Ça efface les possibilités de violence et de discours violents, quoi.
C'est des personnes qui veulent créer des trucs novateurs tout en étant, en fait, sans réfléchir à c'est quoi cette société, ce qu'elle produit, et en étant complètement dedans, en étant persuadé d'être à l'extérieur. Du moins, vous voyez, d'être critique, mais en même temps, quand on relie les phrases exactement, ben on se rend compte à quel point c'est rétrograde, en fait. C'est misogyne, ça prend pas en compte plein de choses, quoi.
Bah, puis par exemple, de ne pas prendre en compte des systèmes d'oppression, ça donne des termes tels que lit sexuel. Alors il a plusieurs termes. Il est aquasexuel, aposexuel ou lit sexuel. Une personne qui ressent de l'attirance sexuelle envers les autres, mais ne s'intéresse pas au fait que ce sentiment soit réciproque ou ne le désire pas. Et par exemple, bon, on parle d'attirance sexuelle, du coup il n'y a pas de passage à l'acte, mais en vrai... Si on prend cette phrase, enfin si on l'observe, ça fait quand même que là on est en train de définir une personne potentiellement qui est dans un truc de viol, enfin de violeur, en tout cas de pas s'intéresser. Si la personne elle a aussi envie de réciprocité à ce
du
rapport, c'est
un peu.
Ouais, le consentement, tout ça, c'est tendu aussi, quoi.
Ça banalise, tu veux dire la violence, les violences. Ouais, c'est très rétrograde. Certaines choses, hein, pas tout, mais... Et voilà, c'est ça le truc de dépolitiser, encore une fois, et toujours.
Et moi, je trouve que ça fait fort, en tout cas, l'oubli, là, un peu des systèmes d'oppression, le fait qu'on puisse se dire un peu tout, et puis que ça n'a pas de réalité sociale, je trouve que c'est déjà une tendance qu'il y a eu au moment de l'arrivée du queer en France, notamment par le biais universitaire. C'est-à-dire que comme queer... qui est une insulte dans les pays anglophones, en France ça veut rien dire, et ben c'était possible pour plein de personnes, dont des hétéros, de se dire queer, parce que il n'y avait pas le stigmate, il n'y avait pas l'oppression. Du coup ça faisait un peu ce côté où on pouvait tous dire c'était pas très grave, et puis on oubliait les rapports d'oppression, les rapports de classe. Et je trouve que là ce qui se passe c'est comme une continuation de ça. Mais ça va toujours plus loin.
Bah, le queer universitaire en France a amené cette définition du queer comme fluide et de pouvoir changer dans les genres, etc. Que je trouve reprennent beaucoup les non-binaires, alors que les gens qui, du moins plein d'anglophones qui font des luttes plus transpédéguines, c'est plus par rapport à des trucs de stigmatisation sociale et justement le fait d'être sale socialement, en tout cas.
Ouais, puis enfin, c'est aussi une contradiction un peu interne à ces trucs de discours de la boîte et des catégories, hein, parce que bon, c'est aussi des... Enfin, si on est dans la fluidité ou dans une position d'instabilité, pourquoi on cherche absolument un nombre de boîtes complètement innombrables ? Bon, ça serait le premier truc, je sais pas, qui moi me pose problème dans une espèce de contradiction interne à ce discours-là. Et c'est aussi le stigmate social du queer, il y a vraiment une revendication... des frics, quoi, du monstrueux, de ce qui dérange, et pour moi, ce qu'on vient poser aussi à On n'est pas des cadeaux, c'est qu'on est dans un rapport d'hostilité et d'opposition et d'offensivité par rapport à un système hétérosexiste, donc genre nos non-binarités, elles vont se positionner dans ce spectre du monstrueux pour la société hétéropatriarcale, et qu'en gros on l'emmerde et qu'on est là pour la faire chier.
Ouais.
Ouais, on n'est pas là pour s'intégrer, on n'est pas là pour être acceptable. On a juste envie de tout faire péter.
Bien, on n'est pas là pour être digeste pour le libéralisme non plus. On n'est pas là pour.
On n'est pas à la radio pour avoir des jolies voix qui vous plaisent, d'abord.
Du coup, ouais, ces catégories-là et les revendications de droits qui en découleraient, c'est des revendications d'acceptation, en fait, d'intégration. Et ça va complètement à rebours des positionnements que nous, on peut défendre sur toute cette. Je sais pas, ces identités monstrueuses entre guillemets, je trouve que c'est ça qu'il faut. Enfin, personnellement, je dirais que c'est ça qu'il faut se réapproprier, c'est-à-dire que revendiquer de pas être un homme par rapport à la société hétérosexiste et hétéropatriarcale, c'est dire ben oui en fait, et je suis un monstre, et je vous emmerde, et je rentrerai pas dans vos catégories, et je ne suis pas un homme.
Alors on peut dire un petit slogan. Ni homme, ni femme, transpédéguine. Et puis moi je voulais finir par une petite blague. C'est par rapport au terme sapiosexuel. Sapiosexuel, c'est une personne attirée sexuellement envers les personnes qu'elle perçoit comme étant intelligent. Et il y a une personne qui a dit par rapport à ce terme: mais alors du coup, si mon partenaire ne s'identifie pas comme sapiosexuel, c'est qu'il me prend pour un con.
To give you anything, they bear the cross of Corleone. Salvation for the mirror. Whoa. But if you pray, all your sins are looked upon.
Voilà, ça va être la fin de cette émission, mais un petit agenda avant.
Et oui, un agenda qui commence par le 21 avril à Lyon. C'est le vaisseau du cabaret post-apocalyptique féministe de la Fessée se rapproche à grande vitesse. La Fessée, c'est féministe en cirque. Et donc, le cabaret, ça va être le 21 avril, ouverture 19h, début 20h. C'est cabaret boom et gros son. Et il y a une demande de venir costumé. Et puis le 22 avril, à partir de 16h, il y a des ateliers, des présentations d'assauts et collectifs féministes. Et le concert de Dykes Beer, qui est du rap NB queer féministe lillois. Et donc tout ça, c'est en non-mixité meuf, queen, trans, qu'il s'agisse de l'orga, des personnes qui feront des propositions scéniques et du public. L'entrée, c'est à prix libre en soutien à la Fessée, du coup féministe en cirque. Et ça se passera au Tutu. Au 77 rue Magenta, Villeurbanne à Lyon. Villeurbanne, juste. Je ne sais pas pourquoi il y a Lyon derrière.
Le 28 avril, il va y avoir une journée entière consacrée au corps handi. Alors c'est une journée qui s'appelle Potentialité des corps handicapés. Ça va se passer à l'ENS de Lyon, donc par Avenue René Descartes à Debourg là. Donc avec toute la journée des interventions de chercheurs et de chercheuses handi sur les militances et du coup les potentialités du corps handi. Et le soir, une projection du documentaire Yes We Fuck qui porte sur les sexualités des personnes handi. Et qui aura lieu, elle, au centre LGBTI au 19 rue des Capucins, donc dans le premier arrondissement de Lyon. Donc voilà, pour assister à cette journée et à la projection, il faut s'inscrire sur le site labotpg.com, labotpg.com.
Et c'est quelle date ?
Le 28 avril.
Ok. Et sinon, bah, dans deux semaines, on va recevoir Lizzie Krodeger, qui est une féministe qui écrit de la SF avec des vampires et tout ça. Et donc, ça va être juste avant le Cabaret Fessé, puisque ça sera le 21 avril, qu'on la reçoit dans nos studios de 17h à 18h. Et pour dire qu'on fait un partenariat avec Terre des Livres, puisque elle va être là le samedi 22 à Terre des Livres, donc 86 rue de Marseille, Lyon 7e, pour venir parler de ses livres. Vous pourrez venir l'écouter, vous pouvez lui faire signer des
des dédicaces, ouais.
Des dédicaces sur vos livres, bref, voilà. Donc, et ça c'est pareil, c'est juste avant, c'est à 15h à Terre des Livres, juste avant la suite des événements fessés. Donc n'hésitez pas à écouter et à venir à tout ça.
Et ben bon après-midi, bonne soirée, et à dans deux semaines.
À dans deux semaines. Thinking of a girl.